On va pouvoir commencer. D'abord, en tout premier lieu, et un peu comme ça a déjà pu être dit plusieurs fois, je tiens infiniment à remercier toute l'équipe du CIREC avec qui j'ai eu la chance de travailler sur ce programme et de pouvoir contribuer à tout ce qu'elles avaient déjà construit, pensé, fabriqué. On peut dire que je pense que ces deux jours sont particulièrement riches et intenses. Et ça nous met au travail, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça me met au travail, là, depuis hier. Voilà, donc c'est quand même pas rien du tout, tout ce qu'il y a en train de se passer. Et bien sûr, à l'équipe d'ICAR, qui produit l'événement et qui est à l'initiative de ça. Et voilà, donc grand merci à toute l'équipe, Marion et Hyacinthe, qui font toujours un travail formidable pour faire en sorte que la logistique se passe au mieux. Et merci Voto de nous filmer. Je ne sais pas si on peut le dire parfois, mais voilà. Alors, ce qui nous réunit, c'est la question de repenser nos institutions, depuis la question du soin, de l'art et de la pédagogie. Donc du coup, je vais me présenter. Je suis Isabelle Carlier et je suis à la direction de l'école d'art d'Annecy depuis 2 ans. Et avant, je travaillais plutôt dans des associations avec une origine punk, underground et issue des alternatives. Donc passer de ce monde-là à celui de la fonction publique, je peux vous dire que c'est un choc culturel assez sévère, que je ne regrette pas, mais qui m'a évidemment amené à penser d'autant plus la question du soin dans un lieu où on travaille, sachant que dans le milieu associatif, c'est déjà un sujet, de toute façon. On connaît les forces et les problématiques d'épuisement. Voilà, elles sont pareilles dans les deux lieux, ça ne se fabrique pas de la même manière, mais à l'endroit de l'institution publique, j'avoue que c'est difficile parce qu'on se confronte d'autant plus violemment à la question des moyens, à la question des règles, des réglementations, de la façon dont ça s'est construit. Et depuis, un monde que l'on connaît, très autoritaire et patriarcal, je préfère le dire et le nommer tel quel. À mon poste de direction, bon, j'ai une histoire personnelle qui fait que je suis passée par plusieurs maladies, des lentes, des violentes, des subites, des soignées, des pas soignées, les problèmes d'anxiété qui arrivent derrière. Évidemment, prendre un poste de direction, c'est pas simple, d'autant parce que je me suis rendu compte, et d'autant plus en écoutant tout ce qui s'est passé depuis 2 jours, qu'en fait, je passe mon quotidien à performer le validisme, à performer la validité. Et derrière, à faire en sorte d'obtenir une validation. Donc c'est quand même cette histoire de posture qui, par ailleurs, est dans ma fiche de poste, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc dans ma fiche de poste, capable de prendre de la distance, capable de gérer une situation de stress, etc., etc. Je suis embauchée pour ça. Je suis embauchée pour absorber, gérer, quoi qu'il arrive. Je suis un robot. C'est nous qui m'a dit ça hier, tu es un robot, de par ma fonction. Et je ne suis pas le cyborg que j'aimerais être, cité par Haraway, donc où je peux trouver des prothèses. Alors j'en trouve, hein, mais je suis vraiment, j'adopte ce rôle-là qui fait que la question des affects, des amitiés, de tout ce qui nous traverse, quand on est dans ces postes-là, c'est très très compliqué. Ça, c'est ce que je vis à mon poste, mais évidemment, ça se décline dans n'importe quel poste, dans une école d'art, dans une institution publique, parce que tout le monde répond aux mêmes règles et avec des niveaux d'opacité qui sont quand même très compliqués. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire à part hacker l'institution et travailler avec ça? C'est tout le sujet qui nous occupe, et c'est ce qui, par exemple, m'a amené à m'intéresser un peu plus particulièrement à ce qu'on appelle la psychanalyse institutionnelle, dont tout ce qui a été monté par Ori, Tescal, etc., à l'écosophie, pensée par Félix Guattari, et à ce que fait aujourd'hui, par exemple, Laurence Rassel, qui est directrice donc de l'ERG à Bruxelles, qui fait ce travail-là aussi, avec ce qu'elle arrive à faire traverser son école et ce qu'elle n'arrive pas à faire, évidemment. Et je vous recommande très fortement, de ce point de vue-là, un livre qui s'appelle « Ce que Laurence Rassel nous fait faire », qui est assez passionnant, justement, pour penser la question des institutions, et en sachant que c'est des gens aussi qui, à un moment donné, décident ça, et qu'elles, eux, ont, par ailleurs, leurs propres histoires. Donc voilà.
Laurence,
Laurence Raffel nous fait faire. Et c'est un livre où elle a participé à l'écriture, et des étudiantes aussi, des étudiantes aussi de l'ERGUE. Et c'est assez formidable parce qu'elle parle aussi de voilà, ce qu'apporte la lecture de la science-fiction, ce qu'apporte la pensée de Donna Haraway, du cyborg, l'open source, qui revient tout le temps, le monde de l'open source. Et voilà. Et donc, du coup, pour cette table sur ce groupe qui nous réunit, donc, j'ai proposé d'inviter les quatre formidables personnes qui sont autour de moi, et que je connais ou par la relation professionnelle ou de plus ou moins longue date. Mais en tout cas, on a une question commune, c'est comment agir sur nos espaces de travail et comment installer des méthodes de transformation. Et donc, je vous présente Alejandra Riera, qui est cinéaste. Enfin, en tout cas, quand je t'ai connue, tu étais essentiellement, tu es toujours cinéaste. Et de par la pratique du film, et on l'a très très bien vu ce matin, la question de la pensée du dispositif et de ce que ça fabrique, de ce que ça génère, de ce que ça donne à voir, ou de l'image, ou de la photographie, c'est comment on pose un cadre, évidemment, c'est déjà penser à un effet de réception et donc du coup à la perception que l'on a. Et le dispositif, ben, c'est une façon de changer les points de vue et les perspectives. Et donc, Alejandra travaille aussi dans une école d'art. Tu es enseignante à l'école d'art de Cergy. Tu l'as été aussi à Bourges. Et à Bourges, j'ai pu être témoin d'une façon dont tu as à un moment donné transformé le lieu avec un acte qui n'est pas anodin, c'est d'installer un jardin dans une école d'art là où il n'y en avait absolument pas. Et donc de voir qu'est-ce que ça tissait en fait, qu'est-ce que ça fabriquait comme transformation. Donc j'ai pu être témoin de ça et de tout ce que ça a généré, et des allers-retours entre le jardin et la question de l'image et du film. Ensuite, donc Mathilde Sauzet, Mathilde, je le dis, donc, qui est curatrice et éditrice. Et Mathilde, tu travailles aussi, tu enseignes également à l'école d'art d'Annecy, et j'ai pu voir voilà, comment, pareil, tu portes un regard et une pensée sur le lieu, sur l'institution, et sur la pédagogie. C'est-à-dire, et aujourd'hui, tu es à l'origine d'un projet art et soins au sein de l'école, mais qui s'inscrit aussi dans un récit qui est à la fois personnel et plus large, et donc c'est ce que tu pourras nous énoncer. Et partager, ce que tu pourras partager. Ensuite, Maria Landgraf, que j'ai pu rencontrer grâce à Anne Guérin. Excusez-moi, je vous associe un peu. Mais Maria, donc, tu es artiste performeuse et tu as une histoire à la fois personnelle et professionnelle qui fait que tu as toujours été au contact de la question du soin, de la question des corps, des handicaps, de la santé, etc. Et tu pourras donc nous parler de ton travail avant toute chose d'artiste. Et aussi, tu étais résidente donc, au LBO, qui est un centre d'art, mais piloté par deux institutions. Et après cette résidence, tu as été amenée à piloter la résidence dans laquelle s'est inscrite Anne. Et donc Anne Guérin, tu es également artiste, art-thérapeute, avec tout ce que ça a de nécessité de redéfinir, de repositionner ce qu'on appelle être art-thérapeute, parce que c'est souvent dévoyé, très connoté. Et malheureusement, voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Et tu es aussi infirmière dans la vie courante, donc tu es complètement en prise avec ces deux sujets. Et tu es donc artiste en résidence au LBO. Tu as terminé, c'est vrai. Bon. Et tu vas rentrer dans un programme de recherche, donc ce qu'on appelle un DSRA, qui a un diplôme de recherche en art, qui est un peu ce qu'on pourrait appeler le practice-based PhD, qui n'existe pas vraiment, pas très bien en France, mais qui est en gros la question de la recherche par la pratique artistique. Ça, c'est porté par plusieurs écoles d'art, parfois en lien avec des programmes doctoraux. Ça existe du côté de Paris, mais c'est Paris, donc voilà, c'est plus facile. Il y en a d'autres. C'est pas ce que je voulais dire. Je défends notre format. Voilà, donc chacune fera une présentation d'environ un quart d'heure, c'est ce qu'on s'est donné pour laisser de la place à la discussion et à l'échange, en essayant de comprendre et de voir à partir d'où on peut commencer à réfléchir à des façons souvent collectives de transformer nos institutions et faire en sorte que dans ces institutions, un peu comme ce qui s'est passé depuis ces derniers deux jours, on puisse se sentir à l'aise et commencer à prendre soin de nous collectivement, ne serait-ce que grâce à une qualité d'écoute qui était quand même assez formidable. Voilà.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais lire un texte qui s'appelle « Désirer apparaître ». Alors, on a parlé d'invisibilité, d'invisibilisation. Voilà, il se trouve que j'avais déjà nommé ce texte comme ça, je vais vous le partager. Donc, c'est une auto-enquête et qui me permet de faire le lien entre trois activités qui m'occupent aujourd'hui. Donc, ces trois activités que je caractérise toutes les trois, à la fois de sociale, de soignante et d'artistique. Donc, la première activité, c'est l'enseignement à l'école d'art d'Annecy. La deuxième activité, c'est la maternité. Et la troisième activité, c'est la réhabilitation d'un ancien sanatorium, donc un lieu où on a soigné la tuberculose, qui se situe à Bergesserin, un village en Saône-et-Loire où je vis. Voilà, donc pour la méthode un peu d'écriture, j'ai utilisé l'auto-enquête, donc un récit personnel, une traversée qui met en perspective, en fait, en simultané, des situations qui se sont déroulées à différentes échelles, à différentes échelles de crise. Donc cette première crise, c'est le Covid-19, on a entendu parler de multiples manières. La deuxième crise, c'est la crise institutionnelle des écoles d'art, donc qui font en partie mon métier aujourd'hui. Et puis la dernière crise, ben, c'est une crise personnelle qui est celle de la maternité. Voilà, que je considérerais personnelle, mais sous l'angle féministe que le personnel est politique. Et donc cette période couvre 5 années, 2020 à 2025, et puis un peu comme toi, Alejandra, je n'ai jamais parlé de la maternité en lien avec mon travail artistique, mais c'est Isabelle qui m'a incité à mettre en perspective certains éléments sur lesquels je travaille, et c'est vrai que du coup, j'ai inclus ce travail aussi qui est celui d'être mère. Voilà, le texte commence par un petit chapitre qui s'appelle « Nous nous sommes agités ». En mars 2020, l'ESA, comme tous les autres établissements d'enseignement supérieur en France, a fermé son bâtiment aux professeurs, aux étudiantes et aux équipes techniques et administratives. Après une semaine de sidération, les échanges informels par téléphone et les mails d'information ont rempli nos journées. Certaines professeurs, n'imaginant pas faire école autrement qu'à l'école, ont profité de cette situation pour disparaître. Des boucles de messages et par là même des tentatives de solidarité. Mais le plus grand nombre d'entre nous s'est mobilisé pour ne pas laisser de jeunes personnes isolées dans leur studio ou loin de ce qu'elles avaient tout juste choisi comme quotidien, la création. Me concernant, à l'annonce du confinement, j'avais bientôt 33 ans, un bébé de 20 cm dans l'utérus et une grande préoccupation, peut-être un peu décalée, les étudiantes. Nous reviendrons sur le sujet du bébé plus tard. Ma grande préoccupation, donc, comment nos étudiantes traversaient-elles cette période suspendue qui donnait raison à tous les discours fatalistes sur la fin du monde, du début de leur vie. Au quotidien, dans mon appartement, je pratiquais pendant cette période plusieurs activités. La première activité était l'enseignement en situation de crise, un enseignement en visio. La deuxième pièce était l'écriture d'une pièce musicale. Que je faisais avec mon compagnon dans la poursuite de ce que j'écrivais avant le confinement. Je pratiquais aussi une préparation à l'accouchement, en ligne, avec une méthode de sage-femme québécoise qui me permettait d'apprendre comment accoucher à la maison, au cas où, parce que je n'étais pas tout à fait sûre de pouvoir rejoindre en de bonnes conditions la maternité, parce que j'habitais la campagne. Et donc, j'avais trouvé une méthode qui s'appelait « accoucher à la maison sans stress ». Voilà. Et pour mettre un peu de piquant à tout ça, j'avais poursuivi quelque chose qui me tenait à cœur, un cours d'aérobic sauvage et grotesque, une discipline qui ne s'appelle pas le sport, mais le sprout, et qui était délivrée par cette artiste performeuse qui s'appelle... professeur postérieur. Je vous donne un tout petit aperçu, une minute, du cours qui s'appelle « Tout pour votre pet ». Une minute, juste pour donner un peu le ton du confinement, comment je le traversais à ce moment-là.
Peut-être
baisser un peu le son.
Donc à défaut de stopper le Covid, on va faire une super squat. En compagnie de mes compatriotes qui sont pas du tout venus m'aider alors que j'étais en train de saigner du nez agonisante par terre. Super, donc vous allez bien en chier, vous allez voir. Allez, c'est parti. 59 minutes de squat. Merde alors. Alors, ça va?
Je coupe.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, nous sommes en présence de qui?
Hop.
Voilà, une séance qui commence comme ça, dans la bonne humeur. Donc, entre autres recommandations de films d'artistes et de sujets à bricoler en chambre, je conseillais aux étudiantes de profiter des cours d'aérobic de cette professeure postérieure, performeuse truculente, professeure de gymnastique transgressive, qui utilisait Facebook pour continuer de faire circuler son amour de la farce et du corps en mouvement. Costume à l'appui. Donc je m'attelais à ce cours tous les jours en étudiante sérieuse, en visio performance. Et là, je me souviens de mon corps, je me souviens de mon ventre qui bougeait dans l'écran de mon ordinateur. Ce corps lourd, riant malgré l'enfermement, suant pour de vrai. Cette situation, aussi pathétique était-elle, reste un souvenir de joie. Première question de ma traversée, de quelle joie s'agissait-il ? Le ventre invisible. J'étais enceinte de 6 mois, 3e grossesse et première que je menais si loin. La vie m'habitait. Chaque semaine de confinement passée, chaque semaine d'aménorrhée dépassée, je devenais moi-même un peu moins professeur, un peu plus étudiante. Le cours d'aérobic de la clown sur Facebook et le tuto d'accouchement en québécois renforçaient ma confiance, en particulier la confiance en mon corps. Alors, que manquait-il à mon bonheur ? Après un accouchement masqué, le petit Amédée est né le 29 mai 2020 à la maternité de Mâcon après 15 heures de travail physiologique. Je regardais ce petit être et j'avais peur de moi. Il arrive que les services de maternité pratiquent la maltraitance. Quant à ma situation, le service de l'hôpital de Mâcon m'offrit le sentiment d'avoir trouvé un lieu où cet enfant et mon être transformé pouvaient exister dans toute leur détresse, joie et peur mêlées. Le postpartum ressemble bien à une dépression. Dépression. Relâcher la pression. Un moment de creux où la responsabilité de porter la vie de l'enfant, celle de l'autre, peut être transférée à un tiers, une institution, une équipe en l'occurrence, le temps que l'accouché reprenne son souffle. Si bien accueilli dans ce service, je ne voulais plus partir. Je savais qu'une fois rentrée à la maison, ce serait de nouveau à moi de prendre soin. Et si mon compagnon, mon entourage, se révélèrent aidant, présent, présente, aimante la découverte de l'étrangeté, de l'altérité, de l'altération au cœur de l'intime, n'incomberait qu'à moi. Question à nouveau, de quelle étrangeté s'agissait-il ? De quelle intimité ? Quand j'ai repris mon activité d'enseignante à l'ESA, Amédée avait 4 mois. Je l'allaitais encore en partie, il me fallait tirer le lait de mes seins à l'école pour continuer à stimuler la lactation durant mes 2 jours de présence à Annecy. Faute de salle au calme, sans mur vitré, je faisais cet exercice aux toilettes, jetant le lait ensuite dans la cuvette. Je regardais souvent mon téléphone, avide d'une image vitale, coupable d'être si loin de cet être qui était encore quelques mois auparavant dans mon ventre. Et puis je retournais aussitôt enseigner le design, les ambiances, les usages, etc. Dans mon rôle de professeur et pour cette institution, le bébé n'existait pas. Pour l'équipe de l'ESA, mon ventre n'avait jamais grossi dans l'écran des visios, ma grossesse avait été confondue avec le confinement et mon congé maternité aux vacances d'été. Mon devenir de mère... On y vient! Mon devenir de mère, mon postpartum, n'avait pas de raison de causer de soucis au travail puisque ce bébé n'existait que pour moi. Le confinement m'avait volé le regard des autres, ce miroir Ce miroir pour la métamorphose physique que mon corps, de mon corps et l'attention d'une communauté que l'une communauté porte le plus souvent à ces étranges individus habités que sont les personnes enceintes. Le confinement m'avait volé le soin et l'affection des collègues, d'amis et d'artistes et des étudiants, étudiantes à qui il m'avait tenu d'enseigner depuis 5 ans. À l'heure de l'écoféminisme, des théories du care, des utopies pédagogiques, j'avais compté sur une école soignante. Mais quels soins avais-je espéré ? Était-ce seulement la faute du confinement ? Désirer disparaître. Le confinement ne m'avait pas pour autant volé le bébé. Amédée était bien là, en forme, bouleversée à sa manière par le monde extérieur, et je ne désirais plus qu'une seule chose, le reconfinement. Ne plus venir, avec mon corps, enseigner à l'école à celles et ceux que je ne reconnaissais plus depuis cette quarantaine, depuis que je ne me reconnaissais plus moi-même. Alors même que je connaissais les effets délétères de l'enfermement sur les êtres vivants, alors même que les cours en visio me donnaient envie de vomir, je choisis le retrait du monde commun pour un espace d'une violence certaine. Isolement en période de postpartum représente danger, mais d'une violence toujours moins insidieuse que la négation institutionnelle de ma nouvelle réalité. À ce moment-là, je n'avais pas d'énergie pour la colère. Et pourtant, je reconnaissais certains de mes sentiments dans ce que décrit Émilie Noteris dans son ouvrage Macronique, « Les choses qui n'existent pas existent quand même ». Oui, c'est ça. Ce qui est dissimulé existe quand même. Ce que des pressions insidieuses incitent à faire disparaître existe quand même. Noteris développe son propos autour d'une séparation actuelle entre les corps politiques et la politique exercée sur les corps. Je m'étais mise à désirer contre ma raison le Covid-19, encore du Covid-19, toujours plus de confinement. Situation malheureuse que j'entrevoyais comme la seule façon de sortir de mes conditions dissociées de mère, d'enseignante et de sujet productif. J'étais au sens politique, au sens physique et au sens psychologique séparée. À force d'apparaître dissociée, je désirais juste disparaître avec Amédée. Je réalisais que l'institution n'avait pas d'autre moyen que le cadre administratif du congé maladie pour faire face aux transformations de ses agents, agentes. Mais vouloir se retirer du monde, est-ce que c'est être malade ? Au départ, j'ai refusé de faire de ma jeune maternité une maladie. Je suis restée au travail, mais n'ayant pas les moyens de mettre en commun cette vulnérabilité ou d'en faire un sujet politique, je suis tombée malade. Où les corps se retrouvent. Je vais terminer ma traversée avec la mention de 3 situations pédagogiques vivifiantes que nous avons initiées post-Covid-19 et conclurai par une rapide présentation de Salvia, un de mes travaux en cours autour de la mémoire du sanatorium de Bergesrain. À partir de la rentrée 2021, une rentrée masquée il me semble, nous avons initié ma collègue et moi Sheila Atala, performeuse, à ce moment-là enseignante à l'ESA, le cours Still Alive, un cours de chorégraphie et scénographie dont les enjeux consistaient à apprendre à bouger, à prendre de la place, à occuper l'espace, dedans et dehors. Nous y avons accueilli la danseuse Elisabeth Schwartz autour du mouvement libre d'Isadora Duncan et de ce que Schwartz appelle « chercher un corps tendre ». Nous avons aussi invité la performeuse Pau Simon pour un atelier d'improvisation, de travestissement et de drag king. Lors de Still Alive, il arrivait que des étudiants et étudiantes pleurent. Mais de leur dire, il y avait de la joie là-dedans. De cette même question, de quelle joie s'agissait-il ? Cette fois, je la reconnaissais, cette joie. Cette joie, c'était la joie des êtres qui investissent leur corps. La joie des êtres qui rassemblent leur partie et acceptent leur transformation. En décembre 2022, sur l'invitation du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, nous avons mené une résidence, établi un terrain avec les étudiantes de master à Bourbon-Lancy, autour de l'eau thermale, des établissements de cure et le soin par le bain. En 2023, autre projet, un groupe d'étudiantes de licence ont été amenées à réaliser des installations sur le site de l'ancien sanatorium de femmes de Bergesrain. 2 lieux, 2 centres de soins gigantesques, tous 2 emblématiques de l'innovation sanitaire moderne. l'un en partie fonctionnel bien que désuet, l'autre en ruine. Ces deux dernières situations auguraient des déplacements, une résidence chaque semaine, de nombreuses rencontres sur place, et je voyais que chaque fois, les témoignages bousculaient les étudiantes. L'architecture nous transmettait les enjeux concrets de la lutte contre la maladie, de la lutte contre la souffrance, contre la solitude, contre la mort. Et pourtant demeurait chaque fois la sensation étrange, intime, que l'eau des sources ne tarirait pas, que les balcons offriraient toujours une place au soleil et que les soignants, soignantes ne cesseraient de porter de l'attention à la souffrance. Encore une fois, de quelle intime étrangeté s'agissait-il ? De quelle intimité ? Les étudiantes partageaient leurs impressions avec leurs mots et des formes visuelles. Les envahissait la sensation partagée d'être convoquées par la situation, le vécu même, et d'avoir envie en même temps de fuir. En jouant la professeure, je reconnaissais désormais cette étrangeté qui m'avait traversée lors du postpartum. La peur de se retrouver soi-même malade un jour, la peur d'être disqualifiée et en même temps le désir, un désir coupable, de disparaître du monde commun, d'avoir le droit de se retirer du monde productif, normatif, et encore plus d'y être obligée par une force extérieure pour ne pas en avoir porté la responsabilité. Seulement, comment ne pas considérer pervers, alors qu'on est jeune, en bonne santé, avec un bébé ou sans, l'envie d'être malade comme l'ultime solution de soin de soi. Voilà, c'est un peu cette question que j'ai envie de mettre en partage, qui m'habite aujourd'hui, que je partage avec les étudiantes. Et donc je vais terminer par un petit paragraphe qui s'appelle « Salvia ». Comme autrice et comme curatrice, je m'occupe aujourd'hui de la création d'un lieu, un jardin de mémoire, dans la parcelle dite des indigentes du cimetière de mon village, Bergesserin. L'ancien sanatorium de Bergesserin, après la tuberculose. Ah oui, une image, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, merci. J'ai presque fini.
Merci Lila. Je prends ça.
Voilà. Donc ça, c'est le sanatorium de Bergesserin. C'est un bâtiment qui fait 15 000 mètres carrés. C'est un des plus gros sanatoriums de France. Qui est encore dans cet état actuel. Donc, à côté de ce gros bâtiment, il y a un village de moins d'habitants qu'il n'y a eu de lits et de soignants dans cet hôpital, et un cimetière avec une parcelle des indigentes, comme je vous le disais. Donc cet ancien sanatorium, après la tuberculose, est devenu une annexe de l'hôpital de Mâcon, accueillant des patientes pour des soins de suite, de la psychiatrie, une maison de repos, une maison de retraite. De 1950 à 2008, de nombreuses personnes ont guéri à Bergesserin, s'y sont reposées, y ont trouvé refuge, en particulier les grandes déprimées, comme on les appelle ici, chez moi. D'autres y ont vécu leurs dernières années de vie. Dans la parcelle dite des indigentes du cimetière, sont enterrés hommes et femmes décédés au sanatorium sans famille ni économie, donc sans sépulture. Aujourd'hui, la parcelle représente un gazon ras et une haie de laurier. Non, à côté. Voilà la parcelle des indigents du cimetière. Et Amélie.
Est-ce qu'on peut relancer le partage d'écran ?
Ah, il est disparu ?
Ouais, il y a une pause, je ne sais pas pourquoi.
Je continue pour pouvoir laisser la parole ensuite à mes collègues. Alors, mon projet, pour terminer, participatif et fédérateur, tout en restant intimiste, consiste en la plantation d'un jardin de sauge, la plante du soin. Par son nom même, Salvia, qui sauve, et en l'installation d'une structure poème. Les rencontres initiées jusque-là avec les habitants-habitantes, la collectivité et celle que nous avons prévue pour l'automne, concentrent mon attention, notre attention, sur la notion même d'indigence. Indigence, manquer du nécessaire, manquer du plus élémentaire. Je vais poser une question qui peut paraître un peu insensée, vous pouvez la prendre au sens métaphorique. De quels soins, aujourd'hui, manquent ces défuntes ? Donc celles qui sont enterrées dans cette parcelle. Je me permets de faire ce rapprochement avec les défuntes de la parcelle des indigentes. Nous, elles et moi, avons manqué d'une chose en commun, une nouvelle place dans le paysage, à l'épreuve du temps, une ambiance propice pour rencontrer la mort et transmettre la vie. Pouvons-nous prendre soin du temps ? comment prendre soin des temporalités hétérogènes et organiques des vies humaines et non humaines ? Comment l'institution peut jouer son rôle de corps politique, de force collective, tout en s'inspirant des joies, des étrangetés et des folies des individus qui la constituent ? Aux prémices de ce projet de recherche dont parlait Isabelle, un projet donc qui va nous amener à tisser des liens entre l'art et le soin. Donc ce projet s'appelle « Prendre soin du temps », que nous mènerons à l'ESA, en partenariat avec le centre d'art, le LBO, les Blés d'Or, et l'artiste-chercheuse Anne Guérin. Je sais que nous avons beaucoup à apprendre des milieux du soin médical, du handicap et de la fin de vie, du soin à la personne et à l'institution pour transformer l'institution école d'art et la garder vitale. Je pense aussi que nous saurons donner, échanger ce que nous transmettons en art au quotidien à nos étudiants et étudiantes, la qualité du regard, l'important des ressentis et les liens qui ne cessent entre dessin, dessin et devenir. Merci.
Je vais lancer ton PowerPoint.
Bien. Donc, je vais enchaîner donc avec le Centre d'art LBO. Mais avant, en fait, ce que je trouvais rigolo, ça l'avait rigolo, c'est ce qui était... c'est ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que le confinement était quand même un moment où des choses ont changé, des réflexions sont nées aussi dans les institutions, c'est-à-dire ça a chamboulé un peu aussi la manière de faire et ça a fait naître, en dehors des bébés, ça a fait naître aussi des idées et des initiatives, j'ai l'impression. Et je ne sais pas s'ils sont encore là, les personnes de ce matin, les travailleurs sociaux, les TISF, non, je ne sais pas. Ah oui, ils sont en haut. Bah, c'est dommage, parce que j'avais envie de leur dire que, et non, finalement, les choses ont quand même un peu changé depuis le confinement. Et ce n'est pas tombé non plus dans un gouffre, toute cette attention qu'on avait eue. Et j'ai un peu la preuve. J'ai un petit espoir, justement. Alors là, ça va être un peu étrange pour moi parce que je vais jongler entre mon rôle de co-commissaire artistique aux côtés de Julien Daillère au Centre d'art LBO à Saint-Baldolf en Savoie. Et en même temps, je suis aussi artiste plasticienne, performeuse, et je suis intervenue dans une résidence artistique dans ce même centre d'art juste un an avant. Donc c'est vrai que j'ai ces deux expériences, et donc je vais essayer de jongler un peu entre ces deux facettes. En tout cas, il faut savoir que ce centre d'art, donc là c'est un peu... C'est Johan Lamouler, une photographe de la compagnie de Mohamed El Khatib qui a pris cette photo et elle a fait beaucoup de prises de vue au début du centre d'art. Donc il faut savoir que le centre d'art n'est pas une institution. Je pense que c'est important que je le dise parce que ça peut amener à confusion vu le titre de notre table ronde. C'est plutôt le fruit ou l'enfant, le bébé de deux institutions, si on veut. C'est l'EHPAD de les Plaies d'Or et notamment sa directrice Clotilde Roger et la scène nationale Espace Maïro de Chambéry et en plus Mohamed El Khatib et Valérie Méréjean. J'ai toujours du mal avec ça. Le M et le R, qui ont eu cette folle idée de créer un centre d'art dans un EHPAD. Et c'est porté, la scène nationale, elle est beaucoup investie parce qu'il y a les techniciens, il y a toute l'équipe de Maïro qui nous aide en tant que commissaire à organiser des événements, à créer des résidences. Mais c'est pas la directrice de l'espace Maïro n'est pas forcément impliquée dans ce qui se fait. Elle est impliquée forcément parce qu'elle est la directrice de l'espace Maïro, mais elle a garanti une certaine autonomie de ce centre d'art. Et donc c'est plutôt Julien Daillère et moi-même et l'animatrice de l'EHPAD qui organisons les résidences artistiques qui se déroulent Il y en a 6 à peu près par an. Et on invite vraiment des artistes très divers et variés dans leur discipline. Ça peut être des écrivains, comme ça peut être des plasticiens, des gens du théâtre. Voilà, il y a vraiment toutes sortes d'artistes qui défilent dans le centre d'art. Et puis, on peut peut-être passer maintenant à la deuxième image, puisque tout a commencé dans ce premier commissariat assuré par Valérie Mérigeant et Mohamed El Khatib. Tout a commencé déjà par réhabiliter un peu l'image même d'un EHPAD, parce qu'on a tous des idées qu'est-ce que c'est un EHPAD. On a peut-être même des appréhensions, on a des a priori, on a des stéréotypes dans la tête. Donc là, c'était vraiment un peu de bouleverser, de brouiller les frontières entre ce qu'on imagine et un EHPAD et ce que ça peut devenir quand on a cette folle idée d'implanter ou de jouer à un centre d'art. Ça a commencé un peu comme ça, et l'idée d'ouvrir les portes et de mélanger un peu les publics. Donc là, nous avons une façade qui a été réalisée par Théo Mercier. Donc là, je présente un peu les artistes aussi par rapport aux images. Il y en a une multitude déjà qui est intervenue. On peut peut-être passer maintenant directement à la deuxième, où on voit un peu qu'il y a des visites guidées qui sont organisées par l'équipe de l'espace Mairo. Donc le public peut s'inscrire à une visite guidée et va déambuler avec la médiatrice, il va déambuler dans les étages, il va découvrir la collection du centre d'art. Parce que le cahier de charge, c'est que nous invitons des artistes à passer un temps assez conséquent avec les résidents et les usagers du lieu. Donc c'est l'idée aussi que toute la résidence est construite sur ce lien avec les résidents, les membres du personnel, mais aussi les familles. Donc tout est construit sur cette relation-là. Et ensuite, il est demandé aux artistes de laisser une œuvre à la collection du centre d'art, un peu l'œuvre matrice qui va témoigner de ce passage au centre d'art. Et donc là, on a les visites et donc les œuvres, c'est pourquoi je disais ça, les œuvres sont installées dans les étages. Un peu partout, ils sont des fois cachés. Pour chaque étage, il va y avoir un plan, c'est en train de faire. Et oui, et j'ai oublié aussi, comme ce n'est pas une institution, le centre d'art, c'est vraiment, il faut le prendre comme un projet vivant. C'est-à-dire un projet vivant qui évolue avec ses commissaires. Maintenant, c'est nous. En 2027, il y aura d'autres commissaires qui prendront le relais. Les problématiques, les questions, tout ce qui concerne aussi le relationnel avec les usagers du lieu, tout ça influence en fait la forme que le centre d'art prend. Chaque année, ils s'adaptent aussi au retour du personnel et des résidents. Donc ça, c'est assez important, je pense, de dire. Et puis, on va peut-être passer maintenant à la prochaine image. Voilà, juste, j'ai mis cette photo, vous voyez, avec le t-shirt. Ça, c'est une petite spécialité parce qu'il y avait l'idée à la fois de réhabiliter l'image d'un EHPAD par rapport à son architecture, par rapport à l'usage d'incruster un centre d'art, l'art tout court. Et il y avait aussi l'initiative d'enlever les pelouses des soignants et de les échanger avec des t-shirts où il y avait marqué centre d'art. Donc c'est assez curieux de voir que les soignants, ils se baladent avec les t-shirts marqués centre d'art. Donc ça crée, c'est vraiment, on est dans cette idée d'une pièce de théâtre presque. Et donc ça crée une ambiance vraiment particulière et ceux qui connaissent beaucoup, vous êtes, d'ailleurs j'ai oublié de dire, vous pouvez vraiment venir quand vous êtes en Savoie, vous pouvez prendre mes coordonnées, il ne faut vraiment pas hésiter de m'écrire, on peut organiser une visite guidée, un peu individualisée, personnalisée, c'est vraiment, et ça vaut le coup parce que si vous connaissez un peu les EHPAD, vous allez sûrement voir quelques différences avec ce que vous connaissez. Bref, dans cette petite parenthèse. Et donc là, je vous montre, là, je bascule sur mon côté plutôt artiste plasticienne. Et là, vous voyez une performance que j'ai menée avec les résidents. Alors, il faut savoir que je travaille beaucoup sur la teinture végétale. Et toute ma résidence consistait à teindre des thés d'oreiller déclassés qui se trouvaient dans les cartons chez la technicienne de l'EHPAD. Je les ai fait ressortir et je les ai teints avec des pelures d'oignons. Des pelures d'oignons qui venaient du coup de la cuisine. Donc je vous disais, ce qui était important aussi pour moi, c'est que je vois quel est le potentiel du lieu, aussi pour moi par rapport à l'artiste, parce que c'est vrai que les pelures d'oignons, il faut manger des oignons avant de pouvoir faire une teinture qui tient la route. Et là, j'avais même pas... Bon, les cuisiniers étaient sympas avec moi, ils ont vraiment mis de côté les pelures. Et donc, j'ai fait des teintures en mélangeant avec d'autres plantes. Donc, ça a créé des mélanges de couleurs. Et ensuite, une fois que j'avais fait ce cycle de teinture, j'ai créé une performance avec les résidents, mais aussi avec le public qui était invité de l'extérieur. Donc, c'est passé par la billetterie de Malraux. Il y avait des... Donc, ça fait partie aussi de ma démarche. Dans mes performances, je veux créer du lien avec l'autre. Donc, il me faut un public assez hétérogène au niveau de sa composition. Ça m'ennuie beaucoup de travailler qu'avec un groupe, d'enfants ou de personnes âgées. Pour moi, il faut qu'il y ait de tout. Que ce soit des personnes, justement, avec des vulnérabilités un peu plus fortes, qui ont quelque chose à dire aussi sur leur corps, des enfants. Voilà, il faut vraiment un mélange. Et là, c'était un peu ce que j'ai imposé aussi à l'EHPAD et à Maro, c'est que c'était possible qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir aussi de l'extérieur. Et je leur ai demandé au public de me construire un manteau en argile. C'était un peu la façon de me réparer, c'est-à-dire de me faire, de me soigner, de prendre soin de moi, de mon corps, en sachant que l'argile crue, c'est-à-dire... mouillé est tellement lourd que ça tombe en permanence. Donc c'est une performance qui consistait beaucoup à réparer les personnes, le public, à réparer en permanence ce manteau qui s'écroulait, que ça tombait, et en même temps ils avaient la possibilité de le designer un peu selon leurs envies. Et c'est ça qu'on voit sur cette photo. Il y a une photographe qui m'a accompagnée dans cette performance. Et je crois qu'il y a encore une autre photo de la performance, la page suivante. Voilà, là on a encore d'autres points de vue. Et c'est vrai, ce qui m'était fait comme retour de la part du personnel, c'était qu'ils avaient vu des personnes qui ne bougeaient jamais de leur siège ou de leur fauteuil, qui avaient du mal à se mobiliser, d'un coup à être à fond investis. Donc, il leur fallait une motivation un peu en décalage au quotidien de l'EHPAD pour qu'on voyait une image un peu complètement surprenante et qui, à mon avis, au moins ce que j'ai ressenti aussi dans ces retours, pouvait faire que du bien par rapport à la relation que le personnel avait entre les personnes âgées et le personnel. Donc, c'est vrai que... J'ai exposé ma propre vulnérabilité, puisque j'ai aussi, on le voit un peu sur les jambes, on voit que j'ai collé un texte sur moi, sur mon corps, que je lisais au fur et à mesure que le manteau avançait. Et je ne sais pas si on a un peu de temps, je peux le lire, mais sinon j'accélère. Je sais, c'est comme ça va au niveau du temps. Je peux m'adapter s'il le faut.
Non, mais facile, lis-le, oui.
Oui. Alors, je vais me mettre debout. C'est un poème donc, qui a été collé sur moi et que j'ai donc lu et qui retrace un peu mon expérience que j'ai faite en tant qu'artiste en résidence au Centre d'art Les Plaies d'Or. La mélodie de la veille du lendemain. J'étais invitée à travailler ici aux Plaies d'Or pour apporter de l'art auprès des résidents, du personnel et des familles. J'ai été profondément touchée par ce lieu, ses occupants et son fonctionnement. J'ai pleuré. Je n'étais pas la seule. J'ai dû traverser une autoroute à pied pour arriver réellement dans ce lieu. J'ai dû trouver du sens à ma présence pour faire avancer ma mission. J'ai dû apprendre la résilience des femmes centenaires quand la vie s'étire jusqu'à l'inimaginable. Tous les matins, rebelote, on lève la tête. Autrement, on se doit de continuer, oui, avec un corps que l'on apprivoise à nouveau, qui ne se rappelle plus, ou trop, avec moins, avec plus, une nouvelle configuration de sa vie. Ce que vous allez entendre ne sera pas facile à admettre. Lancer une pierre à la taille du poing de rage et d'injustice. Écraser des peaux de banane au poing fermé. Que la colère transforme les marteaux qui tapent les corps, écrasent les os, tordent les doigts en vapeur. Elle ne trouve plus ses mots, c'est sa faute. Elle ne comprend pas ce qu'il dit. Il n'a pas la langue assez longue. Elle exige qu'il sorte les mains de ses poches pour voir ce qu'il cache encore. Elle est en colère contre les temps modernes de Charlie Chaplin. Comment rire quand la colère devient l'arme unique pour lutter contre l'oubli? Vous n'avez pas peur de rendre les gens dingues? Quelle honte! Ce que vous allez entendre sera la mélodie de la veille du lendemain. Une main étrange guide la sienne pour rappeler ses facultés. Un ongle de sa patte d'oiseau creuse l'argile des milliers de fois. Un bras bascule vers l'avant, tac, vers l'arrière, tac, vers l'avant, tac, vers l'arrière, tac. Il porte une pierre à la place d'une montre. Elle le regarde une éternité. Elle interroge et elle s'y accroche pour trouver des réponses. Soudainement, elle plie l'étoffe. Ligne improvisée. Soudainement, elle peint un tournesol. Soudainement, elle sait. Soudainement, elle ne sait plus. L'aube naissante du granier différent. Elle suit la couture avec son doigt. Examine le pli sans hâte. Elle revient sur le pli et jusqu'à ce que le doigt s'endorme, lenteur dans l'attente d'une beauté, les mots perdent leur contour pendant que l'émotion dessine le lien à l'autre. Il est vieux, son fils. Ils sont tous les deux vieux. Elle dit gaiement que c'est ridicule de vieillir comme ça. On peut aller jusqu'à 100, 109, 110, 120, sans se rendre compte. On se demande si ce serait bientôt fini. Une année de plus et on commence à douter. Elles font passer leur vie en revue sans pleurnicher. Le recul les rend joyeuses. Pourquoi avoir peur quand on peut en rire? Les orang-outans sautent d'une branche à l'autre. C'est incroyable. Il faut se préparer à l'inattendu. À 94 ans, elle aime toujours le poisson nature, juste avec un petit filet d'huile d'olive. Elle marche pour admirer le changement d'heure en heure du paysage. Une couleur change de couleur selon son contemplateur. Elle avance pour admirer comme tout est concluant. Elle ne sait pas où ça va l'amener, quand ça va s'arrêter. Sûre de sa seule certitude, elle doit avancer pour se préparer à l'inattendu, insatiable d'inconnu. Elle ne vit plus entre ces quatre murs. Elle vit entre les mots, toute lui, entre les espaces. Elle s'éveille à l'extérieur. Elle lit en moi la tempête. Pendant que le poids frais de l'argile sur sa peau l'apaise, un soleil vêtu de noir rayonne d'élégance sage. Les couleurs de pelure épongent les pleurs. Le plaid sur ses épaules lui réchauffe les poumons. Les humains sautent de branche en branche, ils n'ont pas de queue. Vivent en groupe ou en solitaire, n'aiment pas être seuls, ils traversent les autoroutes à pied. Voilà, un retour de mon expérience au Plaidor, parce que c'est comme ça le nom de l'EHPAD, les Plaidor. Et on va passer encore une image. Parce qu'après, vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'un artiste finit une résidence, il doit céder une œuvre au centre d'art. Et donc, à partir de cette performance, j'ai réfléchi qu'est-ce que je pourrais bien laisser comme trace là-bas, étant donné que j'aime le vivant, j'aime ce qui bouge, j'aime ce qui change avec le temps. Et donc, j'ai pensé, donc là, on a une photo, parce que ce n'est pas que moi qui a travaillé dans ce sens que le soin, ça devient une matière pour l'artiste. C'est un duo de designers qui ont créé, à partir des vieilles pelouses de soignants, ils ont créé des bananes, très utiles pour les soignants. Ils les portent encore parce que ça leur sert de ranger les papiers, les crayons, etc. Et donc, faudrait que je regarde, peut-être on peut voir le nom des designers qui ont fait ça, parce que je ne les ai pas en tête. Voilà, c'est Kim Wu et Paul Boulanger qui ont travaillé sur les bananes des soignants.
D'accord.
Et si on passe à la prochaine image. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai laissé au plaideur. C'est deux couvertures lestées, puisque j'ai aussi beaucoup travaillé pendant ma résidence avec les personnes avec des troubles de la mémoire. Et ce que j'ai constaté, que leur mémoire émotionnelle était tellement active et tellement enrichissante, même pour moi, notamment en tant qu'artiste, que j'ai voulu travailler vraiment sur cet aspect sensoriel et de leur faire un cadeau, ou à toute personne qui le désire, de les emprunter. Donc on peut les prendre, les deux couvertures, ils sont, une fait 2 kilos, l'autre fait 1 kilo. Et j'étais très, donc il y a une art thérapeute qui s'en sert des fois pendant ses ateliers, qui leur fait manipuler les couvertures. Et j'ai appris aussi, parce qu'il y avait une qui manquait pendant un bout de temps, et j'ai appris qu'il y avait un monsieur autiste, un vieux monsieur qui est autiste, et qui l'utilise beaucoup parce que ça l'apaise, et parce qu'avec les différentes textures, il y a la laine, il y a du coton, il y a plein de textures, voilà, qui font aussi que même quand on ferme les yeux, on a ces multicouleurs en fait. Voilà, et il y a la photo, et si vous voulez, tout à l'heure, il y a un petit livret, un coffret avec les photos qui a été fait par la photographe. Et ça retrace, en fait, il y a le texte, comme il est décollé sur moi. Et attention, il y a des photos, il y a une vingtaine de photos qui retracent un peu les ateliers. Mais aussi, par exemple, vous voyez des fleurs. Ça, c'est des motifs que les résidents ont dessinés et que j'ai après retranscrit en broderie ou en application sur les couvertures. Donc, c'est vrai, là, on a un peu le photo-album de ma résidence, et elle est disponible aussi pour les familles ou le personnel, n'importe qui, pour regarder, pour comprendre le processus. Et si on passe à la prochaine image, on va voir d'autres artistes, comme Damien Traversaz, un artiste musicien en art numérique qui a travaillé avec la chorale de l'EHPAD, qui a enregistré les sons et qui a créé une sorte de montage sonore. Et quand on touche, ça a l'air de rien, c'est un cadre blanc. Mais quand les personnes, c'est dans une unité protégée, pour ceux qui ne savent pas, les unités protégées, c'est les parties fermées dans l'EHPAD pour que les personnes ne puissent pas se perdre et se mettre en danger. Et donc, dans cette unité protégée, il y a cette surface blanche. Et quand on caresse ou quand on fait des mouvements, il y a des sons qui apparaissent et qui sont assez apaisants. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une frontalité aussi par rapport à ce lien art, et on n'est pas dans une brutalité. On ne veut pas brutaliser, provoquer ou gêner. On est plus dans le sens comment on peut être en accord aussi avec les problématiques finalement du lieu. Et là, il y a une photo d'un petit hôtel mexicain de Luis Sarri, une scénographe qui a installé ce petit placard avec des objets des résidents qui sont décédés. Et donc, il y a toujours, là, on le voit, il y a une bougie, et à chaque fois qu'une personne décède, il y a sa photo, et on est au courant aussi, parce que c'est vrai que maintenant où on passe beaucoup de temps, d'apprendre comme ça que quelqu'un est décédé, ça fait quand même aussi un choc. Et c'est vrai, de pouvoir se référer à cette petite hôtel, c'est quand même assez consolant. Et donc, pour finir, Oui, il y a, je crois, encore des photos. Je finis avec cette idée de pédagogie, parce que j'ai réfléchi où se trouve la pédagogie dans ce lieu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on vit en permanence une transmission un peu mutuelle des connaissances, que ce soit le personnel qui nous, en tant qu'artiste, nous apprend comment on doit réagir à certaines situations. Parce qu'il y a des situations pas simples à gérer quand on n'a pas trop de compétences dans le soin. Quand les personnes en cours ont décidé de partir, on doit les retenir sans les brusquer. C'est tout un apprentissage et c'est vrai que c'est le personnel du coup qui nous apprend comment agir et nous on apporte nos savoirs, nos énergies artistiques. Après aussi les familles, ils sont aussi transmettent un peu quelle était la vie de leurs proches quand ils peuvent plus le raconter. Donc on parle beaucoup au centre d'art. C'est vrai qu'on est en permanence à raconter l'histoire du lieu, du centre d'art, à raconter la vie des uns et des autres. Et ça fait un peu la boucle avec le « je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Sauf que c'est plutôt « il était ou elle était, elle est et elle sera ». On raconte en fait le passé, le présent et le futur de ce lieu, des personnes qui y vivent. Et on est très dans l'individualisation. On est vraiment dans un lien où on s'intéresse à chaque personne, à chaque individu, parce que c'est vraiment un choc des cultures, à la fois des personnes qui ne connaissent pas l'art, qui n'étaient pas familiarisées, d'autres qui étaient déjà un peu plongées dans l'art. On inclut aussi des personnes. Là, c'est un résident qui a exposé ses voitures et on l'a valorisé. À l'époque, avec ce petit socle. Et on va passer, je pense, de la dernière slide, ou avant-dernière. Il y a aussi Adriana Vallis qui a gravé sur les cuillères à la cantine des petits mots, c'est-à-dire des petites phrases qu'elle a enregistrées pendant, ou écrites, notées, pendant qu'elle mangeait avec les résidents. Et ça, c'est vraiment un bon exemple de transmission, parce que quand on mange avec les résidents, on lit la petite phrase, ça fait un premier, une première approche, un premier prétexte de discuter, et ça nous fait après aussi partir dans nos récits respectifs, et c'est très bien. Et on peut peut-être, oui, et voilà, il y a aussi la question des fois, il y a des techniques que les artistes apportent, comme Sarah Bataglia, le crochet, et là, ça, on voit les personnes qui sont très fortes en crochet ou même les personnes qui croient d'avoir oublié le crochet mais d'un coup qui le découvrent par magie. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une transmission en permanence. Donc on parle beaucoup comme moi maintenant. Et qu'est-ce que, on peut finir avec la dernière image et je vous répondrai à la question. Ah non, il y a encore une. Bon, ça c'est des ateliers, c'est rien de non plus d'exceptionnel. C'est vrai qu'il y a aussi des ateliers intergénérationnels qui sont organisés. Et cette idée est vraiment aussi d'expliquer aux tout petits, aux plus grands, etc. Et maintenant la dernière. Et là, il y a une question. Est-ce que ça part au lavage? Eh bien oui, ça part au lavage. C'était une artiste, Sandrine Lebrun, qui a... Est-ce qu'on peut revenir tout au début? C'est l'artiste Sandrine Lebrun qui a fait la sérigraphie avec les personnes, les résidents. Et c'est une question des personnes. Si on imprime sur un mouchoir, est-ce que ça part au lavage? Alors, elle a repris cette phrase. Et si on va sur le site EBO, c'est tout un... Ah, il veut peut-être pas.
Si.
On va voir, je fais la transition avec Anne, comme ça. Donc on va dans les artistes. Et donc là, vraiment, vous allez voir, il y a énormément. Donc on déroule un peu. Et dès que tu vois Anne, tu t'arrêtes.
Très bien. Anne, où es-tu?
Elle est peut-être... Ah, je l'ai vue.
Tu es là. Hop.
Et Anne, elle est intervenue aussi récemment. Elle a fini sa restitution et puis le vernissage collectif. Et si tu déroules encore un peu plus vers le bas, on va tomber sur son œuvre. Voilà. Qui a laissé une fresque. Est-ce que ça te dérange si tu commences avec la fresque ou tu veux que je fasse un peu le...
Oh, tu peux continuer. Tu parles tellement bien.
Bah, peut-être.
Non, mais
oui,
c'était fatigué.
Mais non, je dirais rapidement.
Oui, rapidement.
Annelle a travaillé dans l'unité fermée aussi. Et il y a un gros problème de design d'espace à l'intérieur des unités. Ils sont assez. Comment dire pas cloques, mais. Ils sont un peu cloques et oppressants. Et les personnes, ils sont souvent un peu perdus, ils touchent dans les couloirs sans vraiment pouvoir apprécier quelque chose. Et il est né l'idée de créer une fresque qui fait tout un couloir qu'on peut toucher qui joue aussi avec cette idée de texture et qui embellit l'endroit et surtout qui n'est pas non plus agressif par rapport au reste. Mais qui vraiment crée des résonances avec, c'est étrange, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de fleurs, de choses végétales, comme petites icônes, symboles dans les EHPAD. Et là, pareil, sur les portes, il y a des petits dessins de plantes. Et du coup, ça crée cet écho avec ça. je te passe.
Allez,
merci Maria. Je vais rebondir sur ce travail et oui, c'est issu aussi d'une rencontre du coup avec une résidente en particulier et qui a généré ce travail sur les feuilles de rave puisque c'est une dame qui en fait avait le goût du potager et en la rencontrant, je lui ai demandé en fait, ce qu'elle aimait, quel bon souvenir elle avait, et on a travaillé autour de cette feuille de rave qu'elle trouvait magnifique. De rave, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était qu'une feuille de rave, donc je suis allée enquêter sur la feuille de rave. Et parallèlement, comme l'a dit Maria, en fait, je me suis intéressée à l'espace dans lequel vivaient les soignés en perte d'autonomie, dû à des troubles cognitifs, donc en unité protégée. Ou unité fermée, selon comment on veut le ressentir. Et je me suis particulièrement intéressée aux couloirs, en fait, où déambulaient certaines personnes de l'unité protégée, et j'étais ambitieuse, très ambitieuse, c'était de dématérialiser un peu le mur. Donc je suis partie sur l'idée de la fresque, et je voulais vraiment travailler, la technique de la fresque à l'antique, puisque en fait dans la technique de la fresque à l'antique, il y a les deux composants de l'oubli et de la mémoire. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse dans mon travail. Donc il y a cette pièce centrale, et puis ensuite j'ai composé trois autres pièces plus longues au début de mes croquis sur un mode très trompe-l'œil, parce que je voulais en fait créer une illusion optique aussi. Et donc les trois autres pièces sont en verticale et sont positionnées dans le couloir. Et puis c'est un travail aussi de collaboration avec les soignants et soignantes de l'unité protégée, voilà, où on a travaillé sur ce qui pouvait leur faire plaisir et créer un peu de diversion mentale. Voilà pour ce travail. Et après je peux rebondir sur ma pratique et... Je voulais vous parler, qu'on parle de rencontres et aussi de trajectoires du coup personnelles. Je voulais me présenter d'abord et puis vous remercier Cyrec, remercier Isabelle Carrier pour cette invitation. Et moi je m'appelle Anne Guérin et je suis à la fois soignante, infirmière, donc professionnelle de santé, et artiste plasticienne, diplômée de l'ESA en 2024. Mais j'ai un long parcours, parce que j'ai 52 ans, et donc j'ai commencé mes études supérieures en 1990, d'abord en faculté d'histoire de l'art, que j'ai vite abandonné pour me tourner vers une pratique artistique plasticienne. Je suis rentrée aussi ensuite aux Beaux-Arts de Grenoble à 19 ans pour sortir de ceux de Marseille à 24 ans, en cinquième année. J'ai arrêté l'école avant de valider le diplôme car je ne trouvais plus en fait de sens à l'époque à mes études aux Beaux-Arts. J'avais besoin d'un autre type de contact avec l'art et envie de rencontrer d'autres cultures, donc d'ouvrir ma pratique et la rendre plus voyageuse, Je suis donc partie vivre au Maroc, où j'ai mené plusieurs projets personnels en photographie dans les montagnes de l'Atlas. J'ai rencontré le père de mon enfant. Et puis après, j'ai eu l'opportunité aussi de me former à la photographie argentique à l'époque, couleur, au Centre Vue à Québec, pendant plusieurs mois. Ensuite, je suis retournée en France, je me suis installée dans ma région natale en Haute-Savoie. J'avais besoin de la présence des montagnes, et puis je voulais être mère, pour la problématique de la maternité. Qui en soi une problématique en tant qu'artiste, puisque voilà, il faut créer les conditions pour recevoir un enfant. Et de ce fait, j'ai choisi, comme façon de vivre aussi, de devenir soignante. Alors d'abord, j'étais aide à domicile, ce qui est très important parce que du coup, je pense que j'ai une vision très du soin, beaucoup dans, voilà, qui a été constituée par cette première expérience d'aide à domicile. Et puis, au fil des rencontres humaines, j'ai eu la possibilité de passer le concours d'infirmière. Après, j'ai eu mon enfant. En fait, pendant toutes ces années loin du milieu de l'art, j'ai quand même maintenu mon activité artistique de façon très intimiste, par des carnets, des prises de notes, des lectures. Et parallèlement, dans ma pratique soignante, je me suis orientée dans les soins palliatifs. C'était vraiment quelque chose dans lequel je voulais aller. Je me suis formée en thérapie non médicamenteuse. J'ai suivi donc une formation médicale universitaire en art-thérapie et une autre en hypnothérapie. J'ai passé une commission d'équivalence en 2021 à l'école des Beaux-Arts d'Annecy et je suis rentrée dans mon cinquième année pour valider mon DENSEP. J'ai eu la chance de tomber sur des enseignantes extraordinaires qui m'ont permis de vivre cette expérience. Et donc je suis rentrée en quatrième année de Master Art en 2022. Et puis le système ayant changé, s'étant plus développé vers un versus plus universitaire, on va dire, peut-être, le côté voilà,
recherche.
Mémoire, avec
voilà. La recherche, ouais.
Je devais du coup écrire un mémoire et rétrograder d'un an, donc retourner en quatrième année. Mais en fait, ça me convenait parfaitement d'avoir deux années de plus de Beaux-Arts. Tant mieux. Le retour dans une école d'art était une étape décisive et incroyablement nourrissante. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'aujourd'hui mes projets se poursuivent donc, dans la recherche art-santé et que je viens de terminer cette résidence au LBO, qui est ce centre d'art, monté dans les pattes des Blés d'Or et qui est soutenu par la scène nationale Mavo. Et que mon projet de recherche, en fait, que j'aimerais développer avec Lisa, va creuser la part du sentiment et du romanesque dans le soin, les questions d'éthique et les possibilités de récit que cela va mettre en jeu, ou peut mettre en jeu. Je conserve toujours à temps partiel donc une activité d'infirmière de nuit en psychogériatrie, car c'est aussi mon terrain de recherche artistique. Et in fine, j'aimerais élaborer un langage atypique, commun à ces deux milieux que sont le soin et l'art. Voilà, et puis je voulais juste dire qu'en tant qu'artiste et soignante, le point commun que je trouve aujourd'hui, c'est que je pourrais dire que je suis une passeuse dans les deux cas. En tant que soignante et infirmière de nuit, j'ai sous ma responsabilité des vies, des personnes en souffrance, avec des trajectoires personnelles multiples. Je suis garante du secret professionnel. Ma mission la nuit est de faire passer les soignés le plus doucement possible, le plus tranquillement possible, de la nuit sombre avec ses terreurs, jusqu'au jour qui se lève. Je me suis penchée sur l'impact que pouvaient avoir ces rencontres avec ces autres vies, ces situations de contact sur ma vie intérieure, ces corps à corps, mes fantasmes, mes rêves. Quelle mémoire je peux conserver de ces rencontres qui me bouleversent et nourrissent mon imaginaire et donc mon art. Je suis témoin de tant de mises à nu, de pertes d'intimité qui ne peuvent se raconter. L'expression artistique me permet de révéler ce qui me touche dans ces rencontres humaines, de donner du sens à ce qui est secret et ce qui mérite d'être entendu et partagé. Par exemple, tout un pan de mon travail porte sur la visibilisation des femmes à l'apogée de leur vie, en situation de perte d'autonomie et vivant en institution pour personnes âgées dépendantes. Je suis moi-même dans une position de résistance de mon corps, à l'exigence de mon travail infirmier la nuit, résistance à être une femme artiste, résistance de mon identité intime de mère, de femme mature, de mon éros qui s'exprime dans mon travail artistique, résistance de mon corps et jouissance de celui-ci à aimer la montagne, à aimer courir sur de longues distances, à porter, à vouloir assurer mon autonomie et l'indépendance de ma fille, ma propre survie. Voilà, mon travail porte donc sur les forces sous-jacentes, voire inconscientes, qui composent la subjectivité d'une société mondiale. C'est très ambitieux, mais voilà, c'est là-dessus que je me suis. Je voulais vous lire un texte, mais j'ai aussi une vidéo. Et je me dis, soit je fais les deux en même temps, soit je ne sais pas. C'est un texte, en fait, qui révèle vraiment la nature de...
Combien de temps il est ?
Il n'est pas trop long.
Allez. Bah pendant, les deux en même temps, si tu veux.
Oui, ça peut être bien, les deux en même temps.
Allez.
On va tenter ça. Pour ceux qui veulent, il y a un support papier. Je ne sais pas si... Je vais le faire passer. Alors, c'est, en fait, c'est un travail que... Le texte correspond, en fait, à un texte que j'ai... Voilà, qui fait partie de mon mémoire de DENSEP, qui s'appelle « Ornement, organographie et affect ». Et c'est un texte donc, qui est tiré de cette expérience des soins et qui parle... de mon identité multiple d'infirmière et d'artiste, et aussi de la, en fait, du contexte dans lequel les soins se développent, et notamment de l'aspect multi-contrainte qui pèse en fait sur le fait d'être infirmière, d'être à la fois dans du ressenti et dans des obligations. Et que souvent, en fait, on est dans des contraintes qui nous mettent dans des positions contradictoires, en fait. Et j'ai essayé de, dans ce texte, de trouver la façon dont je pouvais développer un récit qui soit pas littéraire, justement. Allez, je vous le dis. Je vais peut-être me mettre debout. Je serai peut-être plus à l'aise. Donc, ce texte s'appelle Prolégomène pour Madame W. Pier Paolo Pasolini disait de lui-même : Je suis comme un serpent réduit en bouillie de sang, comme un chat qui ne veut pas crever. À la résidence, je suis nommée référente des histoires de vie et je pense à Pasolini. Je recueille des données et je constitue des dossiers. Mon cœur se brise. À chaque fois, mon cœur se brise. Ils sont trop vieux. Elles sont trop vieilles. Ils sont trop fous. Elles sont trop folles. Ils et elles sont trop foutus. Le plus dur, c'est pour celles qui sont encore lucides et qui, les premiers jours, hurlent et veulent fuguer. Revenir à leur vie d'avant, leur vie libre qui leur a échappé. Ces êtres sont là, je m'attache à eux, je suis infirmière. Ils et elles meurent au fur et à mesure. Cet été, ils et elles sont tombés comme des mouches. Les morts, les mortes succédaient aux entrées. C'était terrible. Des hommes, des femmes, des objets, des chiffres. Je ne peux m'empêcher de me dire qui sera le ou la prochaine. Je suis revenue après une semaine de congé au travail. La collègue m'annonce la mort d'une résidente. Je ne m'y attendais pas. Je la pensais immortelle. C'est tellement stupide. Je me dis que je ne la reverrai plus. C'est terminé. J'ai envie de faire un déni de deuil. J'ai envie de penser qu'elle n'est pas morte. Elle était issue d'une relation d'adultère. Sa mère avait sans doute eu une relation très tordue à son bébé. J'aimais ce bébé, j'aimais beaucoup cette femme. Un caractère terrible. Une psychotique, entre guillemets, qui hurlait sous la douche. Un corps tellement maigre que ses seins pendaient comme deux poches vides sur ses côtes saillantes. Elle disait « Rincez-moi la vulve !» C'était incroyable sa force. Elle n'était pas si vieille, elle avait une petite soixantaine. Elle était marginale, mais son ton de voix était aristocratique. Régulièrement, elle manquait d'oxygène, tout son corps désaturé. Parfois, la nuit, elle jouait à faire le loup et poussait des cris étranges. Je montais, apeurée, mais résolue à affronter le loup. Je la laissais pousser encore trois longs hurlements. Et au troisième, je me dirigeais vers elle. Je la sermonnais. Veuillez arrêter de jouer au loup, vous avez réveillé les autres résidents. Elle me regardait et ne trouvait rien à redire, comme s'il était évident qu'elle jouait au loup et que cela était formellement interdit. Un jour, alors que je tentais de lui sécher les cheveux, elle m'a envoyé une droite qui a fait sauter mes lunettes. Respect, j'avais tort, elle avait raison de se battre pour imposer sa volonté. Tellement maigre. Elle n'avait aucun souffle et est morte de détresse respiratoire. À l'hôpital, loin de nous, ça m'écœure et ça me révolte. J'aurais tellement aimé lui dire « je vous aime », juste pour voir dans ses yeux un étonnement. Je suis certaine que cela lui aurait fait du bien. D'ailleurs, je l'ai aimée. Je me demande pourquoi je me suis attachée à elle. Ce corps gris, maigre, ses cheveux gris, longs, son regard gris, avec ses yeux, dont un qui tremble, dont un qui semble mort, et dedans son intériorité étrange, immense. Elle m'appelait Madame Anne. Je pense que notre relation était devenue très belle et très puissante à la fin, presque céleste. Je la respectais profondément. Sa souffrance et sa force, j'avais envie de lui rendre la vie plus douce. Elle avait un raisonnement étrange. Tout le monde pensait qu'elle avait été médecin. J'avais enquêté sur sa vie. Elle brouillait les pistes comme un animal traqué. Son curateur était fasciné par elle. Il m'avait raconté plein de choses. Il ne fallait pas évoquer son prénom, sinon elle jetait des carafes pleines d'eau à la figure. Un jour, elle a décompensé et a été hospitalisée. Elle avait insulté le directeur et l'infirmière-chef. Elle avait balancé la figure de l'infirmière une pleine carafe d'eau au moment du repas de midi, alors que la salle à manger bruissait de la présence des autres résidents et résidentes. Elle observait les interactions des uns, des unes et des autres. Ensuite, elle nous faisait des comptes rendus. Il était question d'analyse médicale tout autant que de logique paranoïde. Elle pensait ainsi que son corps était relié par des ondes à des logiciels informatiques que nous manipulions depuis le bureau infirmier. Elle pensait que nous étions coupables d'homicides, tous et toutes, à des degrés divers. Ce qui m'a le plus surprise, c'est sa résistance, que je qualifierais d'esthétique. Cette impression étrange et excitante qui se déployait autour d'elle. Une nuit où je lui apportais des galettes, j'osais lui demander ce qui me tourmentait au fond, concernant sa personne, elle qui ne semblait attachée à rien de concret. Finalement, vous les trouvez belles, ces galettes ? Elle me confirma d'un air entendu qu'elle aimait ces galettes, qu'elle les trouvait très belles. Ce jour-là, j'avais trouvé son ornement, au fond. Et quand je repense maintenant, je peux l'imaginer, elle qui me manque, entourée d'un halo de tendresse. Voilà.
Bon.
Je vais juste rajouter un petit truc.
Vas-y.
Je voulais juste te dire qu'en fait, c'est un travail qui pose des questions aussi. Parce qu'elle pose la question du consentement, la question du secret professionnel, et que c'est vraiment un travail sur la ligne rouge. Et cette ligne rouge sur laquelle j'ai été pendant les 2 ans de master à l'ESA, et j'ai été très bien accompagnée pour ça. Et en fait, je suis à un moment de ma pratique et je remercie beaucoup le LDO et Maria et Julien, qui n'est pas présent, pour leur accompagnement et tout ce que ça m'a apporté de pouvoir avoir un espace où je suis artiste avec tout le prisme de mon travail infirmier et art thérapeute en filigrane. Et c'est vraiment de pouvoir avoir cet espace où je ne suis plus en mode espion, puisqu'en fait les images que vous voyez, c'est des images, c'est une autre personne que je connais maintenant depuis des années et que je suis, qui habite la résidence où je travaille. Et en fait, c'est des relations, des rencontres tellement. En fait, on ne peut pas éclipser ces relations. C'est ça qui, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est l'humain en fait. C'est ces moments de grâce qu'on vit en tant que soignant et soignante. Et tout ce que ces personnes nous apportent, c'est pas pour faire de l'angélisme, mais c'est que voilà, c'est dommage en fait. J'espère que mon travail va permettre de casser certains préjugés en fait, sur la personne âgée. On voit toujours comme en fait un élément en fait en fin de parcours et qui sert à rien dans cette société parce qu'elle ne travaille plus et que alors que c'est l'apogée d'une vie et souvent des êtres extrêmement résistants et résistantes et ça me touche énormément en fait.
C'est tout, j'arrête parce que
merci beaucoup. Alors, j'avais presque envie de dire que, bon, d'abord, c'est bien parce qu'on pleure beaucoup ensemble. Ça fait du bien, merci. Et si on devait changer quelque chose dans nos institutions, la première chose qui serait à faire, c'est de balancer les carafes d'eau à travers toutes les pièces. Ça, c'est presque une...
C'est une désobéissance.
C'est ça.
En fait, c'est un acte de désobéissance aussi.